Mexique, 2 octobre 68, la révolte étudiante écrasée dans le sang. Le 2 octobre 68, plusieurs milliers d'étudiants mexicains, en lutte depuis 123 jours et réunis en meeting à Mexico, sur la place des Trois Cultures, dans le quartier de Tlatelolco, étaient mitraillés par la troupe. Plusieurs centaines de personnes étaient massacrées. 10 jours plus tard, le régime dictatorial du président Díaz Ordaz devait accueillir les Jeux Olympiques et il entendait d'autant plus porter un coup d'arrêt à la contestation étudiante que celle-ci, dépassant la seule jeunesse scolarisée, s'attirait une sympathie croissante des milieux populaires. L'autorité du régime contestée. Depuis la révolution mexicaine de 1910-1920, le Mexique avait vécu sous le régime d'un parti unique, appuyé sur l'armée et la bureaucratie syndicale. Ce parti, qui avait plusieurs fois changé de nom et avait adopté celui de Parti révolutionnaire institutionnel, PRI, était le parti de la bourgeoisie mexicaine, dans lequel ces hommes politiques pouvaient faire carrière. La corruption de ses dirigeants, son clientélisme de plus en plus visible, entraînait un lent discrédit de ce parti qui se présentait comme l'héritier de la Révolution. Des travailleurs combatifs tentaient de se dégager de l'emprise de la bureaucratie syndicale liée au régime. En 1959, les cheminots se lancèrent dans une grève en rupture avec l'appareil officiel. Dans plusieurs États, il y eut des explosions de colère. Toutes ces luttes furent réprimées et les prisons se remplirent de prisonniers politiques. À Mexico, la contestation étudiante débuta en 61. La capitale connut des émeutes étudiantes en 64. En 66, les étudiants imposèrent la démission du recteur après que celui-ci eût été séquestré dans son bureau. La contestation toucha aussi la province. Les étudiants de l'université de Sonora dénoncèrent le fait que le gouverneur de cet état ait été nommé par le PRI et pas par la population. Il y eut 3 jours d'émeutes réprimés par la police. À Michoacán, les étudiants manifestèrent contre la mort de l'un d'entre eux au cours d'une lutte contre l'augmentation des tarifs des transports. Ils réclamaient notamment l'expropriation de la compagnie privée de bus. La troupe stoppa cette contestation en arrêtant 600 étudiants. En 67, dans l'état du Nuevo León, les étudiants s'allièrent à des conducteurs de bus en grève contre des licenciements pour imposer la réintégration des licenciés. La révolte des étudiants de Mexico. Les étudiants mexicains furent évidemment influencés par l'explosion des luttes étudiantes dans le monde au début de l'année 68. À l'origine de leur mouvement, il y eut d'abord la brutalité de la police qui, le 25 juillet 68, intervint violemment dans une bagarre entre étudiants d'universités rivales. Le lendemain, les étudiants descendaient dans la rue. En même temps, le Parti communiste et des groupes d'étudiants d'extrême gauche manifestaient pour le 15e anniversaire de la création par Fidel Castro du mouvement du 26 juillet. Les deux manifestations fusionnèrent. L'intervention de la police déclencha une émeute et des affrontements. Dans la nuit, un dirigeant du PC et des militants étaient arrêtés. Les 29 et 30 juillet, de nouveaux affrontements firent un mort et des blessés parmi les manifestants. Il y eut 1 millier d'arrestations et la police occupa 4 grandes écoles. Cela mit le feu aux poudres. Le 1er août, le recteur de l'UNAM, l'Université autonome de Mexico, prit la tête d'une marche de 50 000 étudiants protestant contre cette violation de l'autonomie de l'université. Le 3 août, 7 responsables du PCM étaient arrêtés et poursuivis pour sédition. Au nom du PC, le peintre stalinien David Siqueiros, il avait participé en 40 à la première tentative avortée d'assassinat de Trotsky, dégagea la responsabilité du PC, dénonçant les « méthodes anarchistes » entre guillemets de certains étudiants. Mais le 8 août, les dirigeants étudiants, soutenus par les étudiants de l'UNAM et de l'Institut Polytechnique National, IPN, appelaient à la grève et annonçaient des manifestations de masse si le gouvernement ne satisfaisait pas leurs revendications. Démission des chefs de la police, dissolution de la police anti-émeute, restauration de l'autonomie de l'université, libération de tous les prisonniers politiques, dédommagement pour les familles des étudiants tués ou blessés et abolition d'un article de loi permettant de poursuivre tout Mexicain contestant le régime. Un comité national de grève fut mis sur pied. Une partie de ses membres était surtout préoccupée de maintenir l'autonomie de l'université, mais d'autres cherchaient à associer le reste de la population à la lutte en cours. Ces derniers créèrent des brigades politiques, groupes de 4 ou 5 étudiants qui distribuaient des tracts, invitant la population à se joindre à cette lutte et demandant des soutiens financiers. Fin août, le fossé avait grandi entre les étudiants et les autorités gouvernementales. Le 1er septembre, le président Díaz Ortaz, tout en faisant quelques concessions verbales, avertit qu'il utiliserait toute la force nécessaire pour amener l'ordre. Le massacre du 2 octobre. Le 13 septembre, en réponse aux autorités qui accusaient les manifestants d'être provocants, les étudiants organisèrent une marche silencieuse. Des centaines de milliers de personnes y participèrent, sans chanter ni crier de slogans. Les plus jeunes s'étaient collés des rubans adhésifs sur la bouche pour ne pas rompre le silence. Au fur et à mesure que le cortège avançait, les passants s'ajoutaient aux marcheurs. Le seul bruit produit par ces centaines de milliers de manifestants, on a parlé d'un demi-million, était le son des pieds frappant le sol. Citation : Il nous sembla qu'on piétinait les torrents de paroles mensongères des politiciens, citation raconta ensuite un manifestant. Citation, pour la première fois, le silence nous permit d'entendre les applaudissements de soutien de la population et des milliers de mains se levaient en faisant le signe V pour « nous vaincrons ». Fin de citation. C'est devant ce qui semblait annoncer un mouvement général que les gouvernants mexicains prirent la décision de briser la contestation. Le 2 octobre, les étudiants avaient appelé à un meeting dans le quartier de Tlatelolco, place des Trois Cultures, la même où Cortés avait mis un terme à la résistance aztèque en 1521. Alors que des milliers de participants étaient attendus, la police entoura la place, disposant de 500 tanks. À 19h, elle chercha à disperser les manifestants qui lancèrent des pierres. Des tireurs disposés sur les toits commencèrent à tirer sur la foule. Les véhicules blindés et les mitrailleuses entrèrent en action. Les autorités parlèrent alors de 27 morts. Le chiffre retenu aujourd'hui est 275, mais il y en eut peut-être 500. Il y eut aussi un ou peut-être 2 milliers de blessés graves et autant d'arrestations. Le mouvement était brisé, même si beaucoup allaient continuer la lutte dans les années suivantes. Le risque d'une mise en cause du régime était écarté, au prix d'un véritable bain de sang pour la jeunesse étudiante contestataire. L'État mexicain, toujours dirigé par le PRI, allait continuer de réprimer toute contestation, étudiante, ouvrière ou paysanne. Le massacre de la place des Trois Cultures souleva peu de réprobation chez les puissants du monde. Le président du CIO annonça que les Jeux Olympiques se tiendraient comme prévu. Et le lendemain même du massacre, les ministres européens et les représentants du FMI accordaient un prêt au Mexique, gage de confiance pour ses dirigeants qui avaient restauré l'ordre dans ce qui était réputé le pays le plus stable d'Amérique latine. Et pendant 30 ans encore, les gouvernants mexicains successifs allaient nier leurs responsabilités, voire l'existence même de ce massacre. Jacques Fontenoy.